Vous êtes sur RTL.
Place à l'info, RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Il y a comme un air de campagne depuis quelques heures et qui dit campagne dit débat sur l'insécurité. C'est devenu un grand classique et Emmanuel Macron visiblement n'y échappe pas. Le chef de l'État qui était à Montpellier tout à l'heure, au programme, bain de foule, pas toujours très Covid, et petite balade avec une équipe de la BAC, la Brigade Anticriminalité. On en parlera dans le journal bien sûr et aussi à 18h15 avec Frédéric Pechenard, l'ancien patron de la police sous Nicolas Sarkozy qui est aujourd'hui le monsieur sécurité de Valérie Pécresse au Conseil Régional d'Île-de-France. Bonsoir Robert Nuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce lundi 19 avril.
Avec cette question, le nombre de policiers et gendarmes a-t-il sensiblement augmenté? On s'intéressera aux chiffres des trois derniers quinquennats. L'application Tous Anti-Covid transformée dès ce soir comme une sorte de passe sanitaire pour faciliter les voyages. Et puis en football, le projet de Super League qualifié de proposition honteuse par les instances européennes.
Notez qu'à 18h30, c'est Nico Saliagas qui sera là, le photographe Aliagas, puisqu'il expose à partir de demain à la mairie de Paris, exposition, en plein air. La météo, bonsoir, Céline Dacosta.
Bonsoir Thomas, bonsoir
donc,
à tous.
Avec vous, c'est presque le retour de la douceur.
Oui, on peut le dire, il a fait 21 degrés cet après-midi à Carcassonne, 19 à Bordeaux, 17 à Paris, ou encore 15 à Saint-Brieuc. Ce sont des valeurs de saison et ça va continuer au moins jusqu'à jeudi. Alors on a dit presque parce que à partir de jeudi, on aura un petit vent frais qui va faire baisser tout ça. On en reparle tout à l'heure. Côté ciel, demain, ça sera encore agréable. On en profite surtout le matin, puisque le soleil bien présent sera bien présent, mais les nuages vont arriver par l'Atlantique et on pourrait même avoir quelques petites gouttes dans l'après-midi sur l'est du pays.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Soir.
C'est donc l'image du jour. Emmanuel Macron dans une voiture de la BAC à Montpellier. Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Il l'annonçait dans une interview au Figaro. Le chef de l'État a voulu montrer qu'il était proche des forces de l'ordre, Jacques Serret.
Oui, 40 minutes en immersion dans une voiture banalisée aux vitres fumées de la BAC, la brigade anticriminalité. Voilà comment Emmanuel Macron a voulu mettre en scène cette nouvelle offensive sur le terrain, aux côtés des BACEux, comme on appelle ces fonctionnaires de police. Le chef de l'État qui s'est également rendu sur un ancien point de deal démantelé, l'occasion d'un mini bain de foule malgré le contexte sanitaire.
Monsieur Macron !
L'occasion aussi d'échanger avec une mère de famille.
Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Et je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Et malgré un accueil houleux aux abords de la cave du quartier de la Mausson, le chef de l'État a martelé son message.
Quand on habite des quartiers comme celui-ci ou autre, le premier droit qu'on a aussi, comme partout, c'est de vivre dans le calme et dans l'inquiétude.
Un an de la présidentielle, Emmanuel Macron ne compte pas laisser le thème de l'insécurité à sa principale rivale, Marine Le Pen.
Jacques Serret du service politique d'RTL. Emmanuel Macron maintient donc son cap de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2022. Déjà 7 000 recrutés. Guillaume Chies, bonsoir.
Bonsoir.
Concrètement, si on regarde les effectifs sur les trois derniers quinquennats, est-ce que ça augmente?
Oui, ça augmente même nettement. Il faut dire qu'on est parti de très bas en 2007 pour la première année de son quinquennat. Nicolas Sarkozy fait adopter une révision générale des politiques publiques. Le but, c'est de diminuer les dépenses de l'État. Les forces de l'ordre sont évidemment ciblées. Un départ sur deux à la retraite ne sera pas remplacé. Résultat, en 5 ans, près de 13 000 postes de policiers et gendarmes ont disparu. 2012, François Hollande est élu. Il promet d'en recruter 9 000 de plus en 5 ans. Et les attentats de 2015 et 2016 vont accélérer le processus avec des concours de recrutement exceptionnels. L'objectif est quasiment atteint, à 200 postes près. Ajoutez à cela les 7 000 déjà recrutés depuis 2017 sous Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il faut former tout ce monde, les former. Mais vite, en 2020, Christophe Castaner décide donc de baisser de 12 à 8 mois le temps passé en cours théorique. Une erreur selon Gérald Darmanin qui compte repasser à 12 mois dès l'année prochaine.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Merci Guillaume. On en parlera bien sûr dans un instant avec Frédéric Pechenard, invité d'RTL Soir. Et puis en marge de ce déplacement à Montpellier, un homme a été grièvement blessé par balle. Ça s'est passé en plein centre-ville. Son pronostic vital est engagé. Le tireur a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. C'est dans ce contexte, Aude, que le verdict du procès en appel de Viry-Châtillon a été rendu ce week-end. 5 jeunes condamnés de 6 à 18 ans de réclusion criminelle et 8 autres qui ont été acquittés.
Incompréhensible pour les syndicats de policiers après la violence de cette agression en 2016. Parmi les blessés, Jenny, qui avait réussi à s'extirper d'une voiture en flammes au prix de graves brûlures. Son mari, Jérôme, parle d'une énorme déception.
C'est une porte ouverte, là. Ça veut dire que demain, vous pouvez attaquer un représentant des forces de l'ordre, qui que ce soit. Et ben, demain, vous allez prendre entre 0 et 6 ans. Il y en a, ils ont pris quand même 3 et qui ont pris 18 ans. Mais bon, c'est moins que la première fois. Donc, ça veut dire qu'on allège à chaque fois. Donc, bon, c'est quand même dingue.
Et votre compagne, elle partage cette incompréhension ?
Ah oui, mais surtout, elle y a été tous les jours, elle a été assidue là-dessus. Ça l'a complètement anéanti, là. C'est compliqué, là. C'est dans la tête, hein, toujours qui est dur. Ça fait 5 ans qu'elle est suivie, ça continue. Donc, vous imaginez, on lâche pas, c'est du quotidien. C'est quelque chose qui s'efface pas, qui est compliqué, hein.
Jérôme, le mari d'une des policières brûlées à Viry-Châtillon en 2016, les blessés seront reçus par le ministre de l'Intérieur la semaine prochaine. La petite Mia est saine et sauve et elle a retrouvé sa grand-mère dans un endroit tenu secret. La fillette de 8 ans, enlevée la semaine dernière dans les Vosges à la demande de sa mère, a été retrouvée hier matin en Suisse dans un squat de la commune de Sainte-Croix.
Il est 18h06 et depuis quelques minutes, il y a du nouveau sur l'application Tous Anti-Covid. Aude, il y a une nouvelle utilité en fait.
En plus de générer des attestations et de suivre les chiffres de l'épidémie. Elle permet désormais de stocker les résultats de vos tests PCR ou antigéniques comme une sorte de passe sanitaire pour faciliter les voyages. Nerissa Emani, comment ça va fonctionner ?
Alors c'est assez simple, après un test PCR ou antigénique, vous allez recevoir vos résultats comme d'habitude, mais aussi un SMS qui vous permettra de vous identifier et de récupérer un QR code, une sorte de code barre qui s'affiche déjà sur les attestations de déplacement par exemple. C'est avec ce code que vous pourrez télécharger le résultat de votre test positif ou négatif sur l'application. Alors ce tout nouveau QR code va permettre d'attester de l'authenticité du test, de le rendre infalsifiable et surtout de faciliter les contrôles des autorités. D'ailleurs, une expérimentation va commencer cette semaine pour les voyageurs métropolitains à destination de la Corse, puis vers les territoires outre-mer. Ces premiers testeurs pourront bientôt présenter leur QR code sur un papier ou directement depuis l'application. Ils seront lisibles par la compagnie aérienne ou les services de police. Alors attention, personne n'a l'obligation de télécharger l'application pour avoir cette certification sur le test. Vous pouvez simplement vous contenter d'un papier. À noter que dès le 29 avril, toute personne se faisant vacciner pourra obtenir ce fameux QR code et stocker son certificat sur l'application.
Nerissa Emani pour RTL.
Une petite pause et dans un instant, c'est la crise, la vraie grosse crise dans le foot et au niveau européen.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Otto.
18h09, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio, et on va tout de suite en Russie avec un premier geste de Moscou dans l'affaire Navalny, du nom de l'opposant à Vladimir Poutine. Il a été transféré à l'hôpital, il n'est plus en prison.
Toujours incarcéré, ceci dit, et en grève de la faim depuis 3 semaines. La vie du militant serait en danger, selon ses proches. État satisfaisant, à en croire le Kremlin. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme, Bénédicte Tassard.
Oui, Alexei. Et Navalny a été transféré dans une unité carcérale hospitalière où on lui administre une thérapie vitaminée, informe Moscou. Mais hier encore, ses propres médecins avaient été refoulés à la porte de la colonie numéro 2 où il était emprisonné. Alors, comme les États-Unis ce week-end, cette fois, c'est l'Europe, par la voix de son haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell, qui exhorte Moscou.
Les autorités russes doivent donner à M. Navalny un accès immédiat aux professionnels de santé auxquels il fait confiance. Aujourd'hui, nous passons un message uni au pouvoir russe. Il est responsable de la sécurité et de la santé d'Alexei Navalny. Nous le rendons responsable.
Se montrer ferme face à la Russie sur l'affaire Navalny, sur l'Ukraine aussi. Mais le lien diplomatique n'est pas rompu. Vladimir Poutine, par exemple, vient d'annoncer sa participation au sommet climat organisé par les États-Unis jeudi en visioconférence.
Donc il est toujours en prison, mais dans l'hôpital de la prison.
À l'hôpital de
voilà,
la prison.
Pour être précis. Merci à vous, Bénédicte Tassard. On passe au sport. Enfin, est-ce que c'est encore du sport, cette guerre du foot européen qui a été lancée avec le projet de Super League ?
Qui regrouperait les clubs les plus riches de Manchester City à la Juve, en passant par le Real Madrid. Du côté des instances du ballon rond, l'UEFA n'a pas l'intention de se faire marcher sur les crampons, Isabelle Langer.
C'est une proposition honteuse de quelques clubs guidés par l'avidité, un crachat au visage de tous les amoureux du football. Alexander Seferin, le président de l'UEFA, n'a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu'il pense de cette Super League. Le Slovène a même contre-attaqué en proférant des menaces à l'encontre des clubs concernés, mais aussi des joueurs.
Les joueurs qui joueront dans les équipes qui disputent la Super League seront bannis de la Coupe du Monde et de l'Euro. Ils ne pourront donc pas représenter les équipes nationales.
Pour Philippe Pia, patron de FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, il n'est pas question de se laisser faire, comme il l'a expliqué à Nicolas Georgerot.
On est pris en otage. Il s'avère que ce qui est bon pour les joueurs, pour l'instant, tout le monde s'en fout. Donc, on fera en sorte que la menace contre les joueurs ne puisse pas s'appliquer. On n'a pas le droit de s'immiscer dans la carrière ou dans le devenir des individus. C'est leur contrat de travail, c'est leur travail. Et nous, on s'opposera forcément aux menaces, qu'elles viennent d'un bord ou d'un autre.
La guerre des clans ne fait donc que commencer, mais les organisateurs de la Super League affirment d'avoir déjà anticipé et préparé les parades à d'éventuelles batailles juridiques. Selon nos informations, certains clubs poussent même à lancer la compétition dès le mois d'août prochain.
Merci Isabelle. Et à l'instant même, on apprend que Londres veut bloquer cette Super League européenne au nom du droit à la compétition. Et c'est un ministre qui le dit.
C'est Boris Johnson, il est très remonté.
C'est Boris Johnson directement qui a dit ça. Oui, non, comme quoi, c'est vraiment une affaire politico, sportivo, tout ce qu'on veut, economico et le reste.
On part dans l'espace, Thomas, jeudi, à 12h11, précise,
non,
heure
j'ai un
de
truc,
Paris.
Je peux pas venir, je suis désolé.
Ah, ben c'est dommage, Thomas Pesquet s'élancera quand même depuis Cap Canaveral, en Floride, vers la Station Spatiale Internationale. Il partira à bord d'un vaisseau SpaceX. Hier, une simulation de décollage a été réalisée. Alors à quoi est-ce qu'on pense 30 secondes avant le grand départ? Réponse de l'astronaute.
Tout était familier en fait. Quand je regardais les écrans, la capsule, le sas qui était fermé, ben, ça me rappelait exactement ce qu'on a vécu au simulateur. Donc partant de là, c'est malheureusement quelque chose d'assez routinier. Ça me fait sourire parce que c'est quand même des sensations agréables. Et puis on égrène un peu dans sa tête le compte à rebours. On a une pensée pour ses proches, pour sa famille. C'est quand même un moment un peu intense. Et puis très vite, on se tourne en fait vers la technique. C'est pas très poétique. C'est vrai que j'ai pas envie de rêver, mais on veut pas rater une seule action qui serait importante. Donc c'est un peu comme un sportif, je pense, qui s'aligne sur la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. On pense qu'à une chose, c'est ça, quoi.
Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL.
La bonne nouvelle ?
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
On part encore plus loin, Thomas, à 278 millions de kilomètres de nous du studio d'RTL. Un petit hélicoptère baptisé Ingenuity s'est élevé à 3 mètres au-dessus du sol de Mars pendant 39 secondes. Première fois que les experts arrivent à faire décoller et à faire voler un engin sur une autre planète que la Terre.
Oui, j'ai déjà réussi à faire voler quand même celle qui avait ramené ceux qui étaient sur la Lune.
Oui, évidemment.
Mais là, on parle d'un petit engin autonome, évidemment.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous, Aude, et à tout à l'heure. Dans un instant, c'est l'ancien patron de la police nationale, Frédéric Pechenard, qui est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas.